Continent Science, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il existe en physique des objets et des phénomènes qui sont hors de notre sens commun. On rencontre dans le monde de la physique quantique des comportements de la matière qui laissent pantois, pantois est le mot, à celui qui les découvre. Ainsi, les liquides qui remontent le long des bords des récipients qui les contiennent. Ainsi donc, l'hélium superfluide. Ainsi que nous allons le voir encore dans ce rendez-vous de Continent Science, il ne sera pas dévolu strictement à ces objets curieux, en préfiguration de l'année 2005, qui sera officiellement l'année de la physique. Nous allons aborder le métier de physicien, ses cadres théoriques, les différentes spécialités qui s'y distribuent. Sur cela, notre guide ce matin pour cette émission enregistrée à la Cité des Sciences de la Villette, notre guide est Sébastien Balibar, il est physicien à l'École Normale Supérieure à Paris. Alors vous avez... Bonjour d'abord Sébastien Balibar.
Bonjour Stéphane.
Dans ma précipitation, voilà, vous poser la première question. Vous avez écrit à plusieurs un ouvrage qui s'appelle « Demain la physique », qui est un ouvrage collectif dont on aura l'occasion de dire un mot, mais de façon abrupte. Est-ce que je pourrais vous demander votre définition abrégée de qu'est-ce que la physique ?
Ah, grave question.
Vaste question.
C'est pas très facile de définir effectivement une science ou une discipline en particulier parce que les frontières des sciences ne sont jamais étanches. Mais allons-y. Je crois que la physique, c'est une science rigoureuse de la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, c'est une science de la nature qui tend donc à décrire ce qui nous entoure. Hein, objets, lumière, univers, ondes... Mais je crois que c'est une science rigoureuse. D'ailleurs, on classe souvent la physique dans les sciences dures. Hein. Donc, c'est une science rigoureuse. En ce sens, en particulier, que la physique élabore des modèles en faisant appel généralement aux mathématiques. Et le but de ces modèles, c'est de faire des prédictions. Je crois qu'en ce sens, la physique se distingue de la biologie, qui, à mon avis, j'espère que mes amis biologistes ne m'en voudront pas, est plus descriptive que prédictive. En revanche, le souci des physiciens est en permanence de faire des prédictions à partir des modèles qu'ils élaborent et surtout, bien sûr, de voir si ces prédictions sont justes ou fausses afin de progresser.
Alors, comme c'est l'usage, mais on va l'étendre un petit peu dans chacun de ces rendez-vous de Continent Science et pour que vous puissiez prendre visage pour nos auditeurs, on va prendre votre parcours, après tout, depuis le début. Je crois savoir que vous aviez envie de faire les eaux et forêts, vous aviez envie d'être... Et puis, pof, après des études, donc, vous êtes conduit, des études puissantes, vous vous tournez vers la physique. Sébastien Balibar, pourquoi ?
Oh, c'est amusant de regarder en arrière. Je crois qu'effectivement, quand j'étais enfant, j'aimais la nature, j'aimais les arbres, je plantais des arbres, et donc... Effectivement, à une époque de ma petite enfance, je rêvais d'être ingénieur des eaux et forêts pour planter des arbres. Mais j'aimais aussi les cristaux. Je faisais beaucoup d'escalade et je collectionnais les cristaux. Et je collectionnais aussi les papillons dont j'admirais les couleurs. Bref, je crois que dans ma petite enfance, j'avais déjà une certaine attirance pour la nature. Par ailleurs, je crois à la fois dans le choix du métier qu'on fait et dans la façon dont la vie se déroule. Je crois à la fois au hasard qui font que la vie bifurque, mais aussi à un certain nombre de déterminations inconscientes. Et donc, je me souviens très bien des circonstances qui ont fait que j'ai choisi la physique. C'était très tard. En fait, quand j'étais au lycée, j'aimais pas beaucoup la physique. Je trouvais ça assez ennuyeux et moins élégant que les mathématiques ou moins propice à la rêverie que la littérature. Par la suite, je suis entré à l'École polytechnique pour des raisons que je pourrais détailler peut-être, mais j'étais un enfant rebelle, c'est-à-dire j'étais à la fois l'enfant de deux parents qui aimaient infiniment l'intelligence et la connaissance, mais pour qui l'idéal absolu était l'école normale supérieure. Donc d'une certaine façon, je suis leur enfant parce que j'aime la connaissance. Mais j'étais rebelle parce qu'ils me fatiguaient un peu avec leur école normale supérieure, disons-le carrément. Et donc j'ai voulu leur faire un pied de nez, donc entrer dans l'école en face. Je suis entré à l'école polytechnique. Ce que ma mère, dans un premier temps, m'a violemment reproché en me demandant de bien vouloir démissionner immédiatement.
D'accord.
Ceci étant, à l'école polytechnique, c'était en mai 68, ou juste avant mai 68, période troublée, où le corps professoral en mathématiques était excellent, mais en physique n'était pas du tout au niveau qu'il a acquis par la suite. Et il se trouve que vers la fin de ma scolarité à l'école polytechnique, j'ai eu un professeur qui était Yonel Solomon, qui nous a transmis une sorte de passion pour la recherche, c'est-à-dire une espèce de désir irrépressible d'apprendre et de comprendre, et que Yonel Solomon m'a beaucoup marqué. Alors ensuite, je crois que pendant les événements de mai 68, où la révolution traversait aussi les couloirs de cette école, la direction militaire de cette école a eu l'intelligence d'accéder à l'un de nos désirs, qui était d'inviter Pierre-Gilles de Gennes à bien vouloir nous faire un mois de cours sur de la physique contemporaine. Et Pierre-Gilles est venu nous faire un mois de cours sur la superfluidité, propriété quantique de la matière à laquelle on reviendra tout à l'heure.
Ça y est, le mot est lancé. Bon.
Et je pense aussi que ceci m'a marqué. Enfin, et on y arrive, j'ai eu envie de faire de la recherche. Ça, c'était le côté amour des connaissances que m'avaient transmis mes parents. J'ai cherché un laboratoire où je pourrais me sentir bien. Et par un hasard qui me paraît surdéterminé, j'ai trouvé l'école normale supérieure où je me suis installé avec plaisir.
Dans le labo de physique, donc. Alors, je vais vous laisser... On va ouvrir les hostilités conceptuelles, s'entend, les difficultés. Je vais vous laisser le choix. Est-ce que on commence d'abord par la superfluidité 1927, Leyden.
1937.
37,
oui,
pardon.
Pas grave.
À Leyden. Oui, c'est 10 ans plus tard.
Ah, 1927 à Leyden, oui, il y a des. C'est pas vraiment la découverte de la superfluidité, c'est des mesures préliminaires, oui, oui. Pardon. Oui.
Et, ou alors est-ce qu'on commence par. Je vais mettre les guillemets, là encore, pour pas faire trop peur, au condensat ou à la condensation de Bose-Einstein.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est de régler son compte aux deux à la fois rapidement pour parler de choses qui paraîtront peut-être moins exotiques. Effectivement, l'hélium superfluide, en 1937, on a découvert que c'était un liquide très simple, très pur, qui malgré tout avait deux états différents, ce qui est un peu difficile à admettre pour un physicien qui a l'habitude de distinguer différents états de la matière, un état solide, un état liquide, un état gazeux, mais qu'un liquide composé d'une seule composante, des petits atomes bien ronds qui n'ont pas de propriétés particulières, puisse se mettre dans deux états différents, bien distincts, c'était très surprenant. Et donc, l'histoire a mis longtemps à confirmer de quoi il s'agissait, mais effectivement, nous sommes persuadés aujourd'hui que le changement d'état qui affecte ce liquide à des très basses températures, 2,1 degrés absolus, ce qui fait moins 271 degrés Celsius habituels.
Oui.
C'est un changement au cours duquel un liquide passe d'un état classique, c'est-à-dire un ensemble d'atomes individuels qui ont des mouvements plus ou moins désordonnés et qui fait qu'il est visqueux. Quand il s'écoule dans un tuyau, il frotte sur les parois, donc il faut pousser dessus pour qu'il coule, si vous voulez.
Il y a du mouillage.
Le mouillage est une autre propriété, on y reviendra peut-être.
D'accord. Non.
Le liquide passe de cet état classique, visqueux, désordonné, à au-dessus de cette température de 2 degrés absolu, à un état en dessous maintenant de cette température qui, lui, est quantique, ordonné, en un sens qui est difficile à comprendre. Souvent, la physique quantique n'est pas très intuitive. Et qui, effectivement, a à voir avec ce que vous avez cité tout à l'heure, à savoir la condensation de Bose-Einstein. La condensation de Bose-Einstein, c'est un phénomène qui donc avait été prévu par Einstein à partir des travaux de Bose et qui prédisait que dans un système, un ensemble d'atomes par exemple, le calcul d'Einstein s'appliquait à un gaz, donc disons un ensemble d'atomes d'un gaz à suffisamment basse température, à cause de cette fameuse dualité onde-corpuscule de la mécanique quantique qui nous dit que les particules sont aussi des ondes. à cause du fait que la longueur d'onde des ondes associées à chaque particule augmente quand la température diminue, il arrive une température où les ondes représentant chaque atome se recouvrent les unes sur les autres, au point que les atomes perdent leur individualité et construisent une onde collective dans laquelle on ne peut plus discerner les atomes. On a affaire à une onde de matière, et c'est cette onde de matière macroscopique qui, se déplaçant en bloc, perd toute viscosité. Alors, ceci n'est pas très facile ni à expliquer, j'ai essayé, ni à se représenter. Et ça me fait penser que beaucoup de gens représentent un condensat de Bose, donc l'hélium liquide, on pense aujourd'hui que c'est un état condensé en ce sens, bien qu'il soit liquide au lieu de gazeux, mais peu importe. Donc beaucoup de gens représentent ce condensat, cette onde de matière collective, comme si c'était une brigade de soldats marchant au pas, par opposition à une foule dispersée où tout le monde marchait dans tous les sens. Je crois que cette image est fausse, parce que dans une brigade qui marche au pas, il y a quand même des individus. Je veux dire que si un soldat, le troisième de la quatrième rangée, échange sa place avec le deuxième de la cinquième rangée, ça va se voir. Et l'adjudant qui surveille le passage de la troupe va mettre aux arrêts de rigueur le soldat qui a osé échanger sa place avec un autre. Donc un bataillon qui marche au pas, c'est un cristal de soldats en mouvement. Ce n'est pas du tout une onde de matière. Ces ondes de matière dont je parle sont donc des ondes dans lesquelles les atomes perdent leur individualité. Ils deviennent indiscernables. Donc ce n'est pas très facile ni à expliquer avec des mots, ni à montrer avec des images, mais c'est une réalité démontrée aujourd'hui. L'hélium superfluide est dans cet état d'onde de matière collective en dessous d'une certaine température, 2 degrés.
Alors c'est un atome simple, mais on peut obtenir aussi des condensats avec d'autres gaz.
Alors effectivement, le sujet de la condensation de Bose-Einstein a rebondi à la fin des années 90, à partir de 1995. Ça faisait très longtemps que les physiciens cherchaient un système plus simple qu'un liquide dans lequel il y a beaucoup d'interactions entre atomes pour démontrer la justesse des prédictions d'Einstein. Et donc, ils essayaient de trouver cette condensation avec des gaz. Et donc, effectivement, en 1995, deux équipes aux États-Unis ont découvert ce phénomène, la formation de cette onde collective, en étudiant deux types de vapeurs, des vapeurs de sodium, qui est un alcalin que tout le monde connaît en général, et un autre alcalin qui s'appelle le rubidium, qui est un peu plus gros. Depuis, on a trouvé la même condensation de Bose-Einstein dans des quantités d'autres gaz, et maintenant, cette propriété est étudiée dans tous ses détails et très, très bien établie.
Est-ce que vous pouvez donner un mot un schéma pratiquement verbal de la situation expérimentale dans laquelle se font les choses? Il y a un récipient qui est rempli d'hélium.
Dans laquelle se font mes expériences ou...
En général, on va prendre un schéma pour un livre qui expliquerait la manière la plus générale. Donc on concentre du gaz dans un récipient, il faut donc le réduire à une température très très basse, c'est bien ça?
Oui. Mais les méthodes sont très différentes selon qu'il s'agit de l'hélium superfluide que j'ai beaucoup utilisé pendant de très nombreuses années dans mon laboratoire ou qu'il s'agisse de ces gaz d'alcalin qui ont été étudiés récemment. Les méthodes d'observation, d'obtention, de réfrigération sont très très différentes. Donc pour des gaz, on utilise généralement des méthodes optiques. En fait, on refroidit ces atomes un par un en leur faisant absorber des photons, de la lumière. Et ils sont dans des petites ampoules, si vous voulez, en verre, hein, à l'intérieur de champs magnétiques qui servent aussi à manipuler ou à piéger ces atomes. On les observe avec des moyens optiques aussi. Dans ma physique à moi, qui est ce qu'on appelle de la matière condensée, les liquides et les solides sont les deux exemples principaux de matière condensée, ce qui veut dire que les atomes sont près les uns des autres en interaction assez forte. On utilise pour réfrigérer des méthodes de thermodynamique. En fait, on a des pompes et des liquides comme il y a dans les réfrigérateurs à la cuisine. C'est-à-dire que quand un liquide s'évapore, vous savez bien, vous mettez de l'alcool dans votre main. Quand ça s'évapore, ça refroidit. On fait en gros la même chose, en plus sophistiqué. Et donc, dans mon laboratoire, il y a des pompes, des tuyaux, de la, pour faire de la thermodynamique. Et l'hélium superfluide que j'observe, il est à l'intérieur d'une cellule qui fait un tiers de litre en acier avec des fenêtres en saphir pour que ce soit bien solide, bien étanche. On regarde au travers, on fait des mesures de toutes sortes, acoustiques, optiques, électriques. Mais ce n'est pas le même style que les laboratoires de l'autre côté du couloir à l'École normale supérieure, où Quentin Uji et toute son équipe font de la condensation de Bose-Einstein pour des gaz.
Oui, et avec des lasers dans ce cas-là, puisque vous avez parlé d'optique. Hein, donc ce sont des lasers qui permettent ça.
Vous voulez dire dans le cas des expériences sur la condensation de Bose-Einstein des gaz, effectivement, on utilise la lumière pour refroidir les atomes. Ça peut paraître un peu étrange.
Ça paraît étrange.
Oui.
Ça paraît même franchement étrange.
Mais en fait, dans mon laboratoire, il y a aussi des lasers. Hein. Si le laser est le symbole de la modernité en physique expérimentale, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des lasers dans mon laboratoire.
Non, mais il y a certains. Si on prend avec certains lasers un coup de laser dans l'œil, on est mal. Alors que là, bon, ce sont des lasers qui refroidissent.
Mais je crois que si on les prend dans l'œil, leur laser à eux, on se fait mal quand même. Oui.
Alors, vous dites que ça vous a servi de cadre, d'une sorte de modèle large, expérimental, pour comprendre, par exemple, vous avez beaucoup travaillé pour, je crois même que vous m'avez dit, 14 ans, pour comprendre pourquoi il y avait des facettes aux cristaux.
Oui, effectivement, ça peut paraître...
Alors là encore, ça paraît étrange.
Ridicule.
Si on part de la cristallographie...
Travailler 14 ans pour se demander pourquoi les cristaux ont des facettes.
Vous êtes un digne successeur lointain de la BAUI, non ?
Oh, je fais partie de ces nains sur les épaules des géants, comme on dit. Donc je suis sur les épaules de cet abbé, bien sûr, et aussi sur les épaules de Pierre Curie et de beaucoup d'autres. Mais pour revenir au début de votre question... Je crois qu'effectivement, les propriétés quantiques de mon hélium superfluide m'ont intéressé de temps en temps. Et j'aimerais, si l'occasion se présente, dire un mot de la façon dont cet hélium superfluide s'évapore, qui fut le sujet de ma thèse. Mais je crois que j'ai surtout profité du fait que ce liquide n'est non seulement pur, mais plus ordonné qu'un liquide classique à cause de cette histoire de discernabilité quantique. Donc j'ai utilisé donc ce liquide plus simple, plus ordonné que d'autres, comme modèle pour étudier des propriétés dont j'espérais qu'elles étaient plus générales et pas forcément quantiques. L'une d'entre elles est effectivement pourquoi est-ce que les cristaux ont des facettes, qui est une question qui peut paraître banale ou naïve. Quand on regarde du sucre ou du sel dans une cuillère, on voit bien qu'il y a une petite facette sur ces cristaux, ou quand on fait comme quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'on collectionne les cristaux de quartz en montagne, on voit bien qu'il y a des facettes qui ont une certaine symétrie, et on pourrait penser que ça ne sert à rien, ou une question sans intérêt, de se demander pourquoi il y en a. Malgré tout, et bien que mes motivations ne soient pas du tout de la physique appliquée, il faut voir que toute l'électronique moderne, toute l'informatique fonctionne avec du silicium, des surfaces de silicium qui sont des surfaces cristallines ordonnées parce que justement elles sont facettées. Et que l'ordre d'une surface cristalline, c'est très important pour connaître ses propriétés. Alors, moi je me suis attaqué à la question fondamentale, qu'est-ce qui fait qu'un cristal a des facettes et ce qui se passe, en fait, c'est que tous les cristaux n'ont pas des facettes. Le nombre de facettes qu'on peut voir à la surface des cristaux, plus exactement le nombre de facettes différentes qu'on va voir, dépend de la température. En gros, plus un cristal est chaud, moins il est facetté, plus il est arrondi, si vous voulez. Mais ça dépend aussi de la façon, de la vitesse à laquelle il croît. Les cristaux de quartz qu'on trouve dans la nature, ils sont bruts de croissance, ils ont été figés en fin de croissance, comme ça, avec des belles facettes, plus ou moins symétrie 6. Il y a les 6 faces d'un prisme, et puis il y a les 6 faces penchées qui font la pointe de l'aiguille de quartz. Puis en fait, c'est 2 fois 3, c'est pas 6. Enfin bon. Je disais que l'existence de facettes à la surface d'un cristal dépend aussi de la vitesse à laquelle ce cristal croît. Alors, la raison pour laquelle ça nous a tenu si longtemps est double. La première, c'est que... En fait, je devrais dire aussi que je suis tombé sur ce sujet par hasard. Mais ce qui fait que j'y suis resté 14 ans, c'est que j'ai trouvé que c'était intéressant. Et si j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était donc pour deux raisons. La première, c'est que c'était un problème difficile de physique statistique. La physique statistique, c'est le cadre général de mes travaux. Disons que c'est une physique qui tente de modéliser, mesurer, prédire les propriétés de la matière contenant un grand nombre d'atomes, au lieu de se préoccuper de savoir quelles sont les propriétés de chacun des constituants. Si vous voulez calculer la viscosité d'un liquide ou sa chaleur spécifique en calculant toutes les trajectoires de toutes les atomes entre deux collisions, etc., vous n'y arrivez jamais. Mais en revanche, la physique statistique, qui est un cadre plus général que la thermodynamique, réussit à calculer ce genre de choses. Bon. Donc un problème difficile de physique statistique était de savoir justement pourquoi les cristaux ont des facettes. Ça s'insère dans la théorie générale des changements d'état de la matière. Donc les changements d'état de la matière, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait bien que quand on refroidit de l'eau, ça gèle, hein, ou quand on la fait chauffer, ça boue, donc ça passe soit à l'état gazeux, soit à l'état cristallin. On y reviendra tout à l'heure peut-être, parce que tout n'est pas compris là-dessus non plus. Il n'empêche que certains changements d'état de la matière sont continus au lieu d'être discontinus. Pourquoi est-ce que le changement liquide-solide est discontinu? Eh bien, par exemple, la densité de l'eau liquide n'est pas la même que celle de l'eau solide, c'est-à-dire de la glace. Donc quand l'eau gèle, il y a quelque chose qui change de valeur brutalement, c'est la densité. Bon. De même, quand l'eau boue, le gaz n'a pas du tout la même densité que le liquide, donc il y a un saut de densité. Bon. Mais il existe des changements continus, c'est-à-dire que en fait, les deux états, on passe d'un état à un autre, deviennent tellement proches l'un de l'autre que ça se passe continu, sans rupture. Et à ce moment-là, le système hésite tellement entre ces deux états de la matière qu'il a ce qu'on appelle des fluctuations critiques, qui sont d'énormes fluctuations qui rendent le système souvent opalescent, comme un brouillard diffuse la lumière, si vous voulez. C'est un peu aventureux, ma analogie. Et donc, la physique des changements d'état continu de la matière a fait des progrès énormes à la fin du XXe siècle, grâce à une méthode de calcul qui a valu le prix Nobel à M. Ken Wilson, et qui s'appelle les méthodes de renormalisation.
Oh là là.
Alors, c'est un monstre, sûrement.
Oui, oui.
Pour vous, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est,
non,
pas.
Non, non, parce qu'il mais faudrait considérer les lois d'échelle.
Le, enfin, problème, bah, oh là là. Le problème de la surface des cristaux était particulièrement difficile à résoudre, une espèce de défi aux théoriciens, et moi, j'avais trouvé enfin un système sur lequel je pourrais étudier ça.
Sébastien Balibar, comme on l'a annoncé, on va essayer de suivre deux voies maintenant, celle qui essaye de décrire le métier de physicien, et puis on reviendra aussi, bien sûr, sur un certain nombre d'applications possibles, des choses que vous avez abordées, par exemple le fait qu'on puisse aujourd'hui concevoir l'analogue des lasers qui marchent avec des photons, donc qui sont les grains de lumière, des lasers qui seraient cette fois atomes et qui viendraient donc de ces condensats. Mais avant, je reprends rapidement deux considérations. Elles ne concernent pas le physicien, mais René Thom avait l'habitude de dire que les mathématiciens, grosso modo, se rangent en deux rangs, ou en deux groupes, ou en deux styles. Il y a le laboureur, qui est un peu bourru, qui passe avec sa charrue dans un champ. Il est un peu brutal, il n'est pas très raffiné, mais il découvre. Il découvre des belles pierres, il découvre des gemmes, et après, c'est très souvent des algébristes qui, eux, sont plutôt des joailliers et qui vont regarder ces objets-là, les polir longuement. Donc, voilà deux styles de chercheurs. Pour les physiciens, il y a aussi cette considération. Semble-t-il, vous avez souvent parlé du continu et du discontinu. Là, c'est les conditions du direct, hein, on n'y peut rien, de l'enregistrement au public, hein, qui nous accompagne. Donc, il y a ceux qui sont plutôt pour jouer du violon, et les autres qui seraient plutôt pour jouer du clavecin. C'est-à-dire qu'on trouve ceux qui aiment plutôt le continu et ceux qui sont pour le discontinu. Vous êtes quoi, Sébastien Balibar, vous, comme physicien? Vous avez une autre formule, non?
Oui, vos multiples questions me déconcertent un peu. Là, on mélange un peu tout. Je préfère sans doute le violon au clavecin, mais ça, c'est mes goûts musicaux. Je crois que pour revenir au fonceur et laboureur par opposition à... Je ne me rappelle plus ce que vous disiez.
Au joaillier.
Je me sens sans doute plus laboureur, sauf que je me sens un peu papillon. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours labouré le même sillon dans ma vie. J'ai touché à des choses assez différentes, puisque je me suis occupé aussi d'évaporation, de bulles, de mouillage, de cavitation acoustique, de surface cristalline, on en a dit un mot tout à l'heure. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses qui, en fait, se rassemblent dans un ensemble qui concerne donc les changements d'état de la matière, mais que j'ai quand même voyagé. Je veux dire, je ne suis pas le type de physicien qui passe sa vie entière à mesurer 2 décimales de plus sur les constantes fondamentales de la physique pour savoir si, après tout, la théorie, aussi bien établie soit-elle, n'est pas peut-être un peu fausse. Non, je préfère l'inconnu, je préfère défricher, c'est clair, hein. Je préfère aller à l'aventure, je préfère ne rien comprendre et me ravager, de préférence avec d'autres collègues, pour comprendre. Donc je suis plutôt défricheur que joaillier.
Si on conserve l'analogie animale, donc vous êtes papillon et les autres c'est quoi? Ce sont, vous me l'avez dit, c'est les taupes, c'est ça?
Souvent on parle de taupes, oui, ce qui n'est pas forcément une bonne métaphore. Mais on veut dire par là sans doute des gens qui vont, je ne crois même pas que les taupes aillent tout droit. Donc c'est pour ça que cette analogie n'est pas très bonne.
Elle bifurque aussi parfois.
Je crois qu'il y a des physiciens effectivement qui consacrent l'ensemble de leur vie, je vous dis, à mesurer 18 décimales au lieu de 14 de la constante de Rydberg. Je dis ça exprès dans un langage incompréhensible, mais c'est pour vous dire que c'est des gens hyper spécialisés. Et moi, j'ai toujours au contraire aimé les questions de physique que je puisse expliquer à ma famille, à mes amis, à une amie sociologue de passage, du genre pourquoi est-ce que les cristaux ont des facettes? Ou pourquoi est-ce que l'eau gèle, non pas à 0 degré, comme on pourrait le croire, mais un peu plus bas si l'eau est propre.
Oui. Alors, il y a aussi un autre distinguo. Là encore, toutes ces questions sont pour faire comprendre, dans un moment où il y a, semble-t-il, une grande désaffection pour les études scientifiques, donc pour faire comprendre le métier de physicien, il y a, bien sûr, ce distinguo tout à fait admis, et qui se voit même, qui est inscrit selon les différents bureaux dans le couloir que vous partagez avec d'autres au laboratoire de physique, il y a le théoricien, qui est plutôt dans le monde des mathématiques, on va dire.
Bien sûr, oui, des équations, oui.
Voilà,
oui.
Et puis vous, qui, papillon, allez manipuler...
Effectivement, je me sens expérimentateur. Ce qui est amusant, c'est que cette distinction peut paraître surprenante, il y a bien sûr des exceptions... Mais elle fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous demandez à un physicien « Est-ce que vous êtes expérimentateur ou théoricien ?», il sait toujours très bien de quel côté il est. C'est comme si vous demandez à une chanteuse si elle est soprano ou alto, elle sait très bien si elle est soprano ou alto. Bon. Donc je me sens expérimentateur. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la théorie, loin de là. Dans la mesure où la physique est une science rigoureuse, je pense que si je ne faisais que observer, faire des mesures, sans comprendre un modèle... l'adapter pour interpréter mes expériences, le remettre en question, l'améliorer si nécessaire, j'aurais l'impression de faire la moitié de mon travail. Et donc, le fait que je sois expérimentateur signifie que je comprends quand même suffisamment de théorie pour parler à des théoriciens, mais j'ai besoin d'eux. Et de fait, puisque tout à l'heure on parlait de mes 14 ans de physique des cristaux, ça a été en fait une aventure commune avec un théoricien de mes amis pour qui j'ai énormément de respect et d'amitié, qui est Philippe Nozière. Et Philippe Nozière, lui, c'est un véritable théoricien qui ne comprend que quand il a résolu les équations qu'il a écrites sur son papier. Alors que moi, pour comprendre, il me faut aussi une image physique, une sorte d'analogie dans la vie courante. Bon. Et donc, nous avons constitué ensemble un tandem qui a très bien fonctionné dans une sorte d'agressivité amicale surprenante, puisque quand je lui donne mes idées naïves, Philippe Nozière me dit « je comprends rien bon. ». Quand il a écrit des équations, qu'il trouve une solution qui m'apporte, je lui dis « je comprends rien ». Et en fait, notre physique a progressé quand on se comprend l'un l'autre. De fait, j'ai écrit 2 ou 3 petits papiers théoriques qui sont des appendices du travail de Nozière, souvent, des raffinements parce que j'avais l'impression qu'il fallait essayer de mieux faire comprendre ce qu'il avait fait ne suffisait pas. Tout ça pour vous dire que donc, je suis clairement un expérimentateur, mais un expérimentateur qui aime la théorie suffisamment pour en faire un petit peu, et en tout cas pour parler à ses collègues théoriciens.
Oui. Vous avez... Dans l'univers des équipes scientifiques, il y a bien sûr une compétitivité intense, féroce parfois, brutale, qui peut même aller vers des choses parfois même suspectes, si on regarde
absolument,
les choses de
absolument.
Près.
Oui.
Ça vous semble une des conditions sine qua non, après tout, parce que ça participe d'une tension nécessaire quand on a la passion de comprendre que d'être, de vouloir être le premier, ou c'est plutôt des motivations qui sont des motivations, jetons le mot, il vaut ce qu'il vaut, de narcissisme propre par rapport au fait qu'on perçoit qu'on a une tronche, un intellect qui marche bien.
Il y a un peu de tout ça à la fois. Hein. Est-ce que c'est une nécessité ? C'est en tout cas une réalité.
Certes.
Le fait que la recherche en physique soit extrêmement compétitive, c'est une réalité que je ressens tous les jours. Le fait que cette compétition permanente soit à la fois stimulante, mais parfois incite à la fraude, disons, appelons un chat un chat, c'est aussi une réalité.
Les exemples sont rares, cela dit.
Les exemples sont rares, mais...
Et vite dénoncés.
Et vite dénoncé, et je crois qu'effectivement, il y a de la controverse et il y a des conflits à l'intérieur de la physique, mais je pense que c'est bien sûr la rigueur de la discipline qui fait que les conflits se résolvent généralement et même assez vite, parce que le système de la critique interne qui fonctionne à toutes les conférences, dans toutes les revues, en permanence, fait que les conflits ou les controverses ou les discussions progressent.
Oui.
Et en général, je crois que ce qui empêche sûrement certains de frauder, c'est que la fraude va être inévitablement démasquée et là, la honte sera tragique. Bon. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu beaucoup de succès il y a 2 ou 3 ans avec une série de 2 articles sur le mouillage. Il s'agissait de la manière dont un liquide s'étale sur une paroi, dont ce liquide s'étale près d'une paroi quand il est près d'un point critique où il devient juste presque comme sa vapeur. Bon, et c'est un autre problème de physique statistique intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour le mouillage d'un liquide donc sur une paroi près de l'un de ces points critiques où il y a une transition, un changement d'état continu de la matière. Et donc, on a fait des expériences, on a trouvé un résultat... qui nous paraissait extrêmement intéressant, différent de tous les autres, pour lesquels on a trouvé une théorie très, très excitante qui remontait aux travaux de De Gennes sur l'effet Casimir il y a longtemps. On a publié ça, on a eu un succès fantastique. Bon. Du coup, j'ai été invité dans de multiples conférences, y compris cet été en Inde, à faire une conférence plénière devant des milliers de gens sur mon histoire de mouillage critique. Bon. Et... dans les 3 mois qui ont précédé, j'ai voulu approfondir tout ça, bien sûr, refaire des expériences plus complètes, me demander si c'était encore vrai, si je changeais ceci, cela, une démarche normale de physicien expérimentateur, et je me suis aperçu que tout était faux. Donc j'ai été invité à parler devant des milliers de gens d'un résultat qui avait fait ma gloire passagère et qui était entièrement faux. J'ai choisi d'expliquer... pourquoi c'était faux ? J'ai eu le plus grand succès de ma vie. Mais la fraude m'a un peu tenté, je suis obligé de le dire. Je ne me suis pas laissé tenter. Mais ouais. C'est pour vous donner une anecdote sur ce métier, la compétition, effectivement.
L'intérêt de l'autocritique. Alors je vous propose d'abandonner ces considérations d'ordre psychologique, voire même de sociologie du métier un instant, on y reviendra. Mais laser à atomes, alors bon, là ça ouvre la possibilité d'application très très inattendue, que ce principe de condensation...
Écoutez, vous me tirez un peu en dehors de mon domaine de compétences, là, parce que...
Vous êtes au courant, Sébastien.
Oui, je suis au courant. Les lasers à atomes, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un laser ? C'est une onde de lumière cohérente. Cohérente, ça veut dire... pas facile à expliquer comme ça, à brûle pour point. Mais ça veut dire en particulier qu'on peut faire des interférences. Pas facile d'expliquer ça non plus.
On peut se lancer avec l'idée que... après tout, quand on regarde une bougie, là, la lumière n'est évidemment pas cohérente parce que les trajectoires, là encore, il faudrait mettre plein de guillemets, sont diverses et un petit peu embrouillées.
La lumière d'une bougie est désordonnée et celle d'un laser est ordonnée. Voilà. Oui. Elle est ordonnée comme une onde bien définie est ordonnée avec un mouvement qui a des cycles, donc une phase dans le cycle qui avance. Et donc, quand on fait rencontrer deux ondes qui sont bien définies, c'est-à-dire cohérentes, eh bien, elles peuvent se retrouver en phase, c'est-à-dire qu'elles s'ajoutent, ou au contraire, en opposition de phase, à ce moment-là, elles se retranchent. Et donc, les interférences qu'on observe quand on agite deux doigts dans l'eau ou qu'on fait passer deux lumières laser par deux trous et qu'on les recombine, qui sont des franges noires et brillantes, proviennent du fait que des ondes cohérentes peuvent s'ajouter ou se retrancher. Bon. Et donc, comme la mécanique quantique nous dit que la matière, c'est des ondes... on peut imaginer de faire des ondes de matière qui interfèrent aussi. Bon. Et donc, ces lasers à atomes sont des condensats de Bose en déplacement. Et de multiples collègues à moi essayent de construire ces lasers à atomes et de vérifier que c'est bien des lasers à atomes, justement, en faisant des interférences. Bon. Alors, que ceci est un jour ou non des applications pour faire de la lithographie à des échelles extraordinaires, c'est possible, mais c'est un peu prématuré. De toute façon, ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche. Je peux peut-être dire quand même qu'en faisant passer de l'hélium superfluide à travers deux trous à la fois, on peut observer aussi des interférences qui prouvent que l'hélium superfluide est une onde de matière qu'on voit d'ailleurs. Venez dans mon labo, je vous montrerai à travers la fenêtre de mon cryostat de l'hélium superfluide. Les interférences ne sont pas faciles à voir, mais vous verrez le superfluide, cette onde de matière macroscopique. Eh bien, en faisant des interférences de cette manière, on peut par exemple... mesurer la vitesse de rotation de la Terre avec une précision extraordinaire. Il n'est peut-être pas le top du top de la compétitivité technologique, mais qui en tout cas vaut l'étude. Donc effectivement, des interférences avec des ondes de matière, qui est une généralisation de ce que vous appelez les lasers à atomes, ça m'intéresse, ça existe, ça fait partie des frontières mouvantes de la physique en ce moment, oui.
Alors, on a parlé d'objets qui sont de toute petite taille, jusqu'ici, de petits volumes, enfin de petits objets, quoi.
Oui. Hein?
Mais en particulier dans une conférence que vous avez donnée qui s'intitulait « La superfluidité », par exemple, vous parlez d'objets qui sont macroscopiques.
Oui. Hein? Oui, bien sûr, oui.
Certaines étoiles.
Ah, les étoiles à neutrons, oui.
S'il vous plaît, Sébastien Balibar, vous pouvez dire un mot sur les étoiles à neutrons, parce que là encore...
Vous m'emmenez encore à nouveau un peu à la limite de mes connaissances, là. Mais effectivement, donc, ces superfluides sont quand même des objets étonnants. D'abord parce que la mécanique quantique est étonnante. Ensuite, observer la mécanique quantique à donc des échelles visibles, qu'on appelle macroscopiques, c'est souvent étrange. L'une des conséquences que vous mentionniez au début de l'émission, c'est qu'effectivement, quand on met de l'hélium superfluide dans un verre, mettons, l'hélium superfluide remonte sur les bords du verre, fait le tour du bord, redescend en dessous, goûte, et finalement, le verre se vide tout seul. Bon. Ce qu'il y a de remarquable là-dedans, j'ai un film qui montre ça, je veux dire, on le voit à l'œil nu. Hein. Bon. Ce qui est lié à la mécanique quantique là-dedans, c'est pas le fait que l'hélium liquide remonte le long des parois, soit tout liquide mouillant remonte plus ou moins. C'est le fait qu'il se déplace très vite parce qu'il n'a pas de viscosité. Donc ça peut se vider parce qu'il y a un petit film qui remonte sur les bords, mais qui coule fort. Donc voir une onde de matière, donc un superfluide de grande dimension, c'est pas banal. Donc on peut se demander jusqu'où on peut aller comme ça. Eh bien, effectivement, il y a des modèles des étoiles à neutrons qui prédisent, difficile d'aller vérifier sur place, que l'intérieur de ces étoiles est effectivement superfluide, ce qui lui confère des propriétés de rotation bizarres, particulières.
Ce sont des étoiles de petite taille avec une très très grande concentration de matière.
Extrêmement massive. Elles ne sont pas froides, mais elles sont très denses. Et donc c'est pour ça qu'elles peuvent être quantiques quand même, parce qu'elles sont très denses. Les ondes représentant chaque neutron sont tellement près les unes des autres qu'elles se recouvrent même si c'est chaud. Et donc ces étoiles à neutrons ont des propriétés de rotation bizarres qui proviennent du fait que les tourbillons dans un superfluide sont des objets quantiques qui donc n'ont pas une vitesse de rotation arbitraire, mais une vitesse de rotation déterminée par une loi simple faisant intervenir la constante de Planck. Et c'est pour ça que les étoiles à neutrons ont dans leur émission, ou dans leur rotation, je ne sais plus, dans leur rotation, oui, on doit mesurer la rotation des étoiles à neutrons, je ne me rappelle
plus. Oui, la rotation, vous parlez de la rotation qui
la
est
rotation
extrêmement
saute,
rapide.
La rotation saute, parce qu'il y a des tourbillons qui se décrochent. Enfin, tout ça, c'est des modèles. Maintenant, à propos de grandes choses, je voudrais quand même juste dire un petit mot. C'est qu'on est en train de construire au CERN à Genève une énorme machine internationale magnifique qui va tester ce qu'on appelle la supersymétrie des lois de la nature.
Avec des électrons supraconducteurs.
Avec
des aimants supraconducteurs.
Oui. Ces aimants supraconducteurs ont des performances extraordinaires parce qu'ils sont très froids. Ils sont très froids parce qu'ils sont dans de l'hélium superfluide, qui est l'hélium dont je viens de parler, cette onde de matière. Et ceci fait 27 km de long. Donc on est en train de construire, et ça marche, et les premiers tests sont bons, et je viens d'en voir les résultats, un anneau de 27 km d'hélium superfluide près de Genève, qui est ce qui va contenir les aimants du futur LHC et nous dire s'il y a des particules qu'on ne connaît pas encore dans la nature.
En particulier le boson de Higgs, qui a recherché...
Effectivement, en particulier celui-là, mais peut-être aussi des particules supersymétriques. Alors là, ils sont encore plus mystérieuses, à mon avis.
Oui. On cite aussi, alors cette fois, on redescend de taille par rapport aux étoiles à neutrons, on cite aussi la possibilité de l'utilisation, alors qui est un petit peu comme une arlésienne depuis assez longtemps, qui serait des ordinateurs quantiques.
Décidément, vous vous obstinez à m'emmener en dehors de mon domaine de compétences. Oui, l'ordinateur quantique, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'ordinateur quantique? J'y crois pas.
Ah, vous n'y croyez pas. D'accord. Parce que justement, c'est la communauté très partagée, et puis certains disent,
Alors, soyons précis.
Dans le livre,
je vais avoir des problèmes avec mes collègues de l'École normale supérieure.
Oui, parce que dans votre livre, Demain la physique, oui, c'est cité.
Bien sûr. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est les possibilités, pour l'instant, parfaitement théoriques, très peu expérimental en tout cas, de faire du calcul avec des systèmes quantiques. Donc ce qui me paraît très intéressant, c'est le calcul quantique. Mais de là à construire un ordinateur quantique, c'est-à-dire une machine qui calcule vraiment quelque chose, je vais vous dire ce que j'en pense. Récemment, quelqu'un avec un ordinateur quantique a réussi à démontrer que 15 égale 3 fois 5. Et donc il y a certains que ça... pour qui c'était une rupture extraordinaire, et moi ça m'a un peu fait sourire. Je suis désolé, mais je pense qu'on ne sait absolument pas comment construire un ensemble contenant un nombre suffisant d'éléments quantiques cohérents pour que cet ordinateur quantique ait des performances un tant soit peu comparables avec quelque chose d'utile. En revanche, se demander comment fonctionne la logique d'un ensemble d'éléments quantiques, c'est un problème de physique extrêmement intéressant. Donc autant, je me répète, autant je crois que le calcul quantique est une direction de recherche très intéressante, autant je pense que l'ordinateur quantique n'est pas à l'ordre du jour.
Bien. Sébastien Balibar, est-ce qu'on peut aborder cette question qui, de toute façon, sera une question pendante pendant cette année de la physique 2005, concernant cette discipline, mais plus généralement les disciplines scientifiques, la question de leur désaffection. Quel est votre sentiment à vous, puisque on voit très bien que ça se confirme de manière sociologique dans tous les pays développés, l'Allemagne,
oui,
la Grande-Bretagne,
sûr, oui,
les États-Unis.
Oui, oui. D'ailleurs, oui, peut-être pas dans des pays en voie de développement. J'ai été en Inde plusieurs fois et je dois dire que j'ai été émerveillé par la curiosité et l'intérêt pour les sciences de quantité de jeunes Indiens que j'ai rencontrés là-bas.
Et souvent, on dit qu'il y aura aux États-Unis, par exemple, plus que des avocats américains et que les laboratoires tourneront avec des Indiens, des Chinois, des Coréens. C'est déjà le cas pour souvent.
C'est la route de la soie. Il y a des Pakistanais, des Indiens, des Chinois. Ouais. Mais soyons sérieux, c'est un problème extrêmement grave qui, moi, m'inquiète énormément et qui est à multiples faces. C'est une réalité que nous essayons, je crois, tous de combattre. Quelles sont ses origines ? Je crois qu'effectivement, le problème est plus vaste que la désaffection pour la physique, pour les sciences dures. Je crois que c'est un problème de désaffection pour la connaissance tout court. Je crains que dans la société moderne, connaître, apprendre à connaître, essayer de comprendre, soient des valeurs qui soient beaucoup moins partagées qu'avant. Alors, personnellement, j'ai été élevé par mes parents qui, bien sûr, étaient des intellectuels et avaient au contraire, pour la connaissance, ils en avaient fait le but de leur vie, si vous voulez, et donc... J'ai toujours essayé non seulement de comprendre davantage, mais aussi d'expliquer davantage. J'ai fait beaucoup de vulgarisation, d'articles, de livres, d'émissions, tout au long de ce qu'on peut appeler ma carrière, en essayant d'expliquer aux gens qu'il y a des questions très intéressantes qui sont faciles à comprendre. Il y a peu de choses qui m'agacent autant que les scientifiques qui veulent se donner l'air savant ou l'air profond en étant mystérieux. Moi, je crois qu'au contraire, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre « Demain la physique », qui est aussi une tentative de remplir un besoin, de donner envie de connaître, de comprendre à un public aussi vaste possible. On a essayé d'expliquer aux gens quelles sont des questions actuelles qu'on se pose et à quel point elles sont intéressantes. Et je pense que c'est facile d'intéresser les gens, de leur dire « Est-ce que vous savez... que la Lune, c'est un morceau de la Terre qui a été éjecté par l'impact d'une sorte de planète Mars un jour. Est-ce que vous savez que non seulement l'univers est en expansion parce que il y a eu une explosion initiale il y a 13,7 milliards d'années, mais que cette expansion accélère, les étoiles s'en vont de plus en plus loin, de plus en plus vite. Or, on ne sait absolument pas pourquoi. On peut expliquer aux gens assez facilement qu'il y a dans l'univers de la matière et qu'en fait, on n'en connaît qu'une très petite partie. L'essentiel de la matière dans l'univers est inconnu. On peut expliquer aussi aux gens qu'il y a des questions qui sont très amusantes et très jolies. Par exemple, je me suis intéressé à la cavitation, donc à l'apparition de bulles dans un liquide. Eh bien... Une idée qui est en train d'être testée est de savoir si la hauteur des arbres provient du fait que si l'arbre est trop grand, la colonne de sève, donc d'eau, tire tellement sur l'eau du sommet de l'arbre, puisqu'elle est longue, haute, que ça la casse, il apparaît des petites bulles, ces petites bulles cassent les cellules du haut des arbres, et c'est pour ça que si l'arbre est trop grand, il s'arrête de croître. Il y a des questions comme ça qu'on peut expliquer aux gens et qui, je crois, sont soit amusantes, soit fondamentales. Il faut expliquer que la science, la connaissance, c'est intéressant. Et nous nous y employons, vous et moi.
Dernière question, mais d'un mot. Vous êtes amateur de musique. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, ce laboratoire. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de physiciens, par exemple, au laboratoire de physique de l'École normale, qui font de la musique ? C'est pour se détendre après les fatigues intellectuelles ?
Je me suis souvent posé cette question et pour une fois, je vais me permettre de faire une réponse très brève. Oui. Je ne sais pas.
Merci, en tout cas, merci Sébastien Balibar. Je redonne le titre de cet ouvrage, Demain la physique, il est publié aux éditions Odile Jacob. C'était Continent Science, Éric Damaggio, Didier Sudre, Céline Leclerc, Anne Franchini, Stéphane Delisgeorge.
Si vous voulez nous écrire, notre courriel est continentscience@radiofrance.com.
Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne fin de matinée sur France Culture. Et dans quelques instants, on retrouve Emmanuel Laurentin.
Junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets.